Chers amis, avec saint Paul, nous postulons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ne faisons pas une mauvaise interprétation de ce qu'il nous dit. En effet, il n'est pas en train de nous dire que tout ira bien dans notre vie. En fait, il nous dit deux choses. D'abord, que Dieu a le pouvoir de faire tout concourir à notre bien pour autant que nous l'aimions. Cela suppose déjà une attitude intérieure de notre part. Le choix de demeurer fidèle à Dieu quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous arrive. Car cette fidélité dit notre amour pour lui. Si nous sommes dans cette attitude intérieure de nous en remettre toujours à Dieu, de lui donner chaque jour notre confiance, d'espérer en lui en dépit des événements mauvais qui peuvent nous arriver et de l'aimer de tout notre cœur, alors lui s'engage aussi à tout faire concourir à notre bien. Mais, et c'est là la deuxième chose que nous dit saint Paul, Dieu fait tout concourir à notre bien, certes, mais notre bien le plus fondamental, ce n'est pas que tout aille bien pour nous sur la terre. Notre bien fondamental, c'est le salut de notre âme. C'est la communion d'amour avec Dieu, c'est la béatitude éternelle. Parfois, les gens disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout cela ?» Parce qu'ils ont l'impression que les épreuves sont comme un châtiment de Dieu. Mais c'est une erreur de penser ainsi. Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous souffrions. Il ne veut jamais le mal pour nous. Mais il peut le permettre en vue du bien. C'est différent. Et cela ne veut pas dire que le mal devienne un bien. Non, le mal demeure un mal. Une maladie demeure une maladie. Les horreurs de la guerre demeurent les horreurs de la guerre. La perte d'un travail demeure quelque chose de douloureux. Mais si nous demeurons dans l'intimité de l'amour avec Dieu, appuyés sur lui qui nous accompagne dans nos épreuves, alors nous expérimenterons vraiment qu'il est là, qu'il nous donne sa grâce pour traverser toutes les épreuves, de telle sorte que ces épreuves ne nous écrasent pas, ne nous tuent pas, mais au contraire nous fortifient, approfondissent notre intimité avec lui et nous rendent meilleurs. Peut-être connaissez-vous le magnifique témoignage de Jacques Fesch qu'il a relaté dans le journal qu'il a écrit à sa fille, « Dans 5 heures, je verrai Jésus ». Fils de riche, dandy sans beaucoup de conscience, il finit par braquer un vendeur d'or pour acheter un voilier. Mais le braquage se termine mal. Poursuivi, il se retourne et tire avec le fusil de son père dans le policier qui le somme de s'arrêter et le tue. Jacques est incarcéré. Le procès fait beaucoup de bruit. Il faut faire de lui un exemple, n'est-ce pas? Et donc, il est condamné à être guillotiné. Mais entre le moment de son incarcération et le temps de l'exécution, Jacques, dans sa prison, a reçu la grâce de la conversion, le don de la foi. Et il expérimente à quel point Jésus est près de lui dans cette épreuve. « Dans le silence de ma cellule, dit-il, je regarde la croix et je ne suis plus seul. » Jacques se tourne de plus en plus vers Dieu et entre dans une intimité de cœur avec lui. « Il ne reste qu'une seule chose à faire, dit-il, ignorer toute cette haine, puis chercher autour de soi et en soi celui qui inlassablement attend l'âme meurtrie et désespérée pour lui donner un trésor qu'il refuse au monde. » Rencontrez le Christ qui, dans la solitude d'une cellule, vous parle plus distinctement peut-être qu'ailleurs. Jacques expérimente que ce qui est un si grand mal, le meurtre, la prison et la guillotine comme horizon, peut se changer en un chemin de rédemption. Je le cite encore, « C'est lorsqu'on est persécuté qu'on se met à vivre, et le mépris, la souffrance qu'on endure ici-bas par le fait des hommes, se transforme en gloire et en joie dans l'éternité. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant. » Jacques pourrait désespérer de lui-même et de fait, chaque jour, il voit sa misère. Même en ayant reçu la grâce de la conversion, il voit tout ce qui s'agite en lui et qui n'est pas encore pleinement sanctifié. Et pourtant, il ose dire « Malgré toutes mes révoltes, mon peu de zèle et d'enthousiasme à vivre en état de communication avec Dieu, je sais d'une façon absolue que je suis entouré de grâce et d'amour et que le Seigneur veut me sauver presque malgré moi. » Et lui-même en vient à considérer que ce qui lui est arrivé est sans doute la meilleure chose qui pouvait lui arriver et que sans cette terrible épreuve, il se serait sans doute perdu pour l'éternité. Il se sait condamné à mort et pourtant il dit « À l'heure actuelle qui est pleine de menaces mortelles, je sais que je suis le plus privilégié des hommes, parce que ce qu'on va me donner est hors de proportion avec ce qu'on va me prendre. Et en aurais-je la possibilité que je ne changerais pas mon sort pour celui d'un roi du pétrole ? On pourrait aussi penser que Jacques subit ce qui lui arrive, mais non, il en fait un acte d'amour. Et même sa mort, il veut en faire en union avec le Christ, une mort rédemptrice. Et il adhère de tout son cœur à cette permission divine. Lui-même dit « Jésus permet cette mort afin de pouvoir sauver ce qu'il veut sauver. » Et il ajoute « Au lieu de mourir stupidement, je vais pouvoir offrir ma mort pour tous ceux que j'aime. » Jacques entre alors dans cette dynamique de gratitude qui était celle de la petite Thérèse, elle qui disait à la fin de sa vie, après avoir aussi beaucoup souffert, « Tout est grâce. » Eh bien, Jacques Fesch note dans une de ses lettres, « Je suis heureux. Je sais maintenant que tout est grâce et que ce n'est pas vers la mort que je vais, mais vers la vie. » Oui, mes amis, il nous faut regarder les événements de notre vie à l'aune du ciel et de la béatitude qui nous attend et que Dieu prépare pour nous dans le secret de ce qu'il permet que nous vivions. Faisons-lui donc confiance.